17e édition du Festival du Livre et de la Presse d'Écologie, Felipe 2019. Écrire les luttes et les forêts, une table ronde avec Geneviève Azam, Manon, Christophe Bonneuil et Antoine Chopeau. Une table ronde organisée avec la revue Terrestre.
Bonjour, donc on va commencer. Je voudrais remercier d'abord le Felipe de nous avoir invité la revue Terrestre à animer deux tables rondes. Donc celle de ce soir qui s'appelle Combien de COP encore, bilan et perspectives stratégiques du mouvement climat qui sera animée par Maxime Chédin. Et celle de maintenant qui s'appelle Écrire les luttes et les forêts. Terrestre est une revue beaucoup moins ancienne que le Felipe puisqu'on a un peu plus d'un an. Qui est une revue en ligne, qui est un espace de débat et un laboratoire d'idées en lien avec les mouvements sociaux, écologiques et climatiques. Alors pourquoi cette table ronde sur ce thème « Écrire les luttes et les forêts » Tout simplement parce que le thème du week-end, c'était « Les arbres et les forêts ». Et puis surtout parce que effectivement, il y a une effervescence éditoriale, intellectuelle et politique autour de la question des forêts. On peut donner quelques éléments de contexte sur la catastrophe radicale de nos rapports aux forêts. Hein. On a déforesté au XXe siècle plus que tout ce qui avait été déforesté dans les 10 000 ans qui ont précédé. Donc on est dans une situation de destruction accélérée. Et on est également dans un mouvement de réindustrialisation ou de... Une nouvelle couche supplémentaire d'industrialisation des forêts avec l'irruption de marchés du carbone, de marchés financiers du carbone et donc d'une conception de la forêt comme une usine à capture de carbone et également suite aux enjeux du développement durable, la sortie des énergies fossiles liées au débat sur le climat, une espèce d'offensive sur la biomasse qui met une nouvelle pression sur les équilibres des espaces forestiers. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vrai, y compris dans nos pays à nous, c'est-à-dire on pourrait dire... Dans les 150 dernières années, on a reforesté la France par rapport à l'état de ses forêts dans les années 1800, grâce à l'usage des énergies fossiles et grâce aux importations de bois qui venaient d'autres régions du monde. Grâce à ces formes d'échanges écologiques inégales, on a pu améliorer l'état des forêts françaises et à nouveau, avec la pression qui se joue autour de la biomasse énergie, ces espaces forestiers sur notre territoire national sont fortement menacés par une nouvelle vague extractiviste. Ce qui est intéressant, c'est qu'autour de ces enjeux, il y a eu toute une série de nouvelles luttes, de nouveaux imaginaires et de nouveaux bouquins, productions intellectuelles qui se sont articulées autour de ces questions forestières. On pourrait citer dans un premier domaine qui est disons, d'un champ plus politique, plus lié aux luttes et à l'industrialisation des forêts. On pourrait citer récemment « Main basse sur nos forêts » de Gaspard Dalinze, dont il sera question dans une autre table ronde demain, je crois, ou « Être forêt » de Jean-Baptiste Vidalou. À ce secteur français, on pourrait rajouter l'actualité de toute une série de travaux et de réflexions liés au mouvement anti-extractiviste dans d'autres régions du monde, et notamment en Amérique latine. Le renouveau des luttes territoriales amène des chercheuses et des chercheurs à penser la question des luttes territoriales comme des nouvelles formes de combat politique, des formes reterrestrées finalement de lutte politique. Je pense aux travaux de Arturo Escobar, de Maristela Svampa ou l'autre qui était en Équateur, qui était ministre de l'économie. Alberto Acosta. Donc ça, c'est un premier champ. Un deuxième champ, c'est dans le champ des sciences et aussi des sensibilités. Il y a eu vraiment un renouveau de l'attention à ce qui se joue autour de l'intelligence des plantes, la coopération, la synergie, la communication qui se joue par les racines, les symbioses avec les mycorhizes. Et il y a eu tout un ensemble de nouvelles connaissances scientifiques qui ont été produites ces dernières années, qui sont intéressantes parce que jusqu'à présent, on avait tendance pour étendre un petit peu, pour remettre en question l'exceptionnalisme humain, on parlait beaucoup du loup, de certaines espèces emblématiques animales. Et là, on pousse vraiment le questionnement de l'exceptionnalisme un cran plus loin en s'intéressant à la façon d'être au monde de la plante, à la philosophie du végétal, à l'intelligence des réseaux racinaires. Donc, il y a vraiment des travaux très intéressants de ce côté-là également. Et puis, un peu à l'interface de ces deux premiers domaines, il y a un troisième domaine qui est plutôt du côté des travaux de l'anthropologie, où là, on a un tournant un peu cosmologique du rapport aux forêts, où il ne s'agit plus d'être dans un multiculturalisme en disant il n'y a qu'un seul monde, il y a différentes cultures qui ont des représentations du monde différentes, mais en lien avec les travaux de Descola, de Viveros de Castro, il y a cette idée que différents peuples ou différentes espèces construisent des perspectives différentes qui construisent autant de mondes différents qui sont potentiellement, qui peuvent dialoguer les uns avec les autres, mais dans certaines conditions, avec certains rapports diplomatiques, avec une dimension située qui nous fait sortir de l'universalisme d'antan. Autour de ça, il y a eu beaucoup de travaux. Donc, on peut parler du tournant ontologique dans l'anthropologie. Beaucoup de ces travaux se sont intéressés aux forêts. Je pense notamment à Eduardo Cohn, qui sera discuté, « Comment pensent les forêts ?» ou à Nat Singh, « Le champignon de la fin du monde ». Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est le symptôme d'une effervescence dans les sciences humaines et sociales autour du domaine des humanités environnementales. Là, ça a l'air de marcher. Ouais, c'est explosif le sujet. Oui, des humanités environnementales qui renouvellent profondément les sciences humaines et sociales en ce qu'elles considèrent que le socius limité à l'humain ne définit pas l'ensemble du social ou même que la question du politique dépasse le seul socius intra-humain et que donc il faut renouveler nos catégories du politique pour introduire des alliances, des relations avec d'autres êtres que ceux qui étaient admis à figurer dans le politique tel qu'il avait été pensé par la modernité depuis 2-3 siècles. Voilà, donc c'était un peu pour vous brosser le paysage politique ça marche là si le politique et intellectuel autour du sujet. Et puis pour aborder ces questions, ces luttes, ces livres, nous avons trois auteurs de la revue Terrestre. Manon, qui est auteur d'un article qui s'appelle « Trois saisons en forêt, contribution au mouvement en cours ». Geneviève Azam, ben, il y a les noms, on ne devait pas le dire normalement, mais il y est. Manon Binot, parce qu'elle a signé le texte de façon anonyme, mais cette fois, ça y est, elle est démasquée. Donc, elle s'appelle Manon Binot, c'est elle. Geneviève Azam, qui a fait une recension du livre « Être forêt » aussi dans la revue Terrestre et qui partira en partie cette réflexion-là aujourd'hui aussi. Et Antoine Chopeau, qui a écrit avec Léna Ballot le super texte qui circule beaucoup en dehors de la revue par divers réseaux, qui s'appelle « Suivre la forêt, une entente terrestre de l'action politique ». Donc, je vous passe tout de suite la parole.
Donc moi, j'avais écrit cet article après la participation à une marche qui a été organisée par le SNUPFEN, qui est un des syndicats de l'ONF, à l'automne dernier. Et dans cet article, je parle à la fois de ce que j'ai entendu et des stratégies que met en place l'ONF pour lutter contre la privatisation en fait, de ce secteur-là. Et aussi de chantiers forestiers qu'on fait à différents endroits en France et du coup qui sont plutôt des pratiques qui sont mises en réseau par le réseau des alternatives forestières. Et donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'il semble y avoir un peu deux, on pourrait dire deux plans stratégiques pour défendre les forêts aujourd'hui en France. Un premier plan qui s'attaque au problème de manière globale, on pourrait dire à l'échelle de la menace, parce qu'aujourd'hui, il y a, on peut parler du coup de l'industrialisation des forêts françaises, au sens où il y a plein de forêts, par exemple, de feuillus dans le nord-est de la France. C'est très fort dans le Morvan, dans le Limousin, par exemple, des forêts qui sont rasées pour en faire des plantations, surtout de résineux, de douglas. Donc ces forêts-là sont rasées. Ensuite, on dessouche, donc on enlève toutes les souches et les rémanents du sol et on replante d'autres arbres avec des engrais, des pesticides, etc. Donc c'est l'application d'un modèle agricole à l'échelle de la forêt qui abîme les sols, etc. Donc cette menace-là, avec aussi la fermeture des petites scieries pour faire des très grosses scieries, elle va très très vite, donc c'est une échelle de temps qui est très rapide par rapport au temps de vieillissement d'une forêt, lui qui est très lent. Elle est très rapide et massive, quoi. Donc pour s'attaquer à cette échelle là, Il y a différents types d'actions qui sont possibles, et notamment des gens en ce moment. Il y a Gaspard qui sera là demain, qui essaye de faire une proposition de loi en ce moment. Donc il me lance une commission d'enquête sur la forêt qui disent transpartisane et citoyenne. Donc ils essayent vraiment de faire en sorte que cette proposition de loi, elle émane de différents collectifs qui agissent en forêt, de gens de l'ONF, plus de gens de différents partis. Alors, je sais pas, il y a la France Insoumise, le PS, il y a différents partis, députés de chaque parti qui sont dans la commission d'enquête, et ils vont essayer de proposer cette loi-là. Donc, là, c'est une stratégie, on pourrait dire, juridique. Du côté de l'ONF, ils sont plutôt dans une tentative d'action réformiste, donc essayer de faire en sorte que le gouvernement ne privatise pas l'ONF comme ils essayent de le faire. Donc, y a, pour dire un peu rapidement, à l'ONF, il y a énormément de suppressions de postes depuis quelques années. Il y a eu un espèce de gros tournant libéral en 2012 et néo-managérial qui fait qu'il est très difficile de travailler en forêt comme il faisait avant, parce qu'en gros les gardes de l'ONF, ils ont plusieurs fonctions. Il y a une fonction qui est on pourrait dire régalienne, de police de la forêt, donc de faire en sorte que les règles qui sont appliquées de gestion de chaque plan de gestion sur chaque secteur, chaque parcelle, elles soient appliquées, et qu'il n'y ait pas des gens qui volent du bois, qui chassent n'importe comment, etc. Il y a une fonction aussi qui est plutôt sociale, éducative, d'amener des gens en forêt, etc. Une fonction environnementale et une fonction productive qui, là, est de gérer les coupes et les ventes de bois, quoi. Et en ce moment, donc, le gouvernement donc a dit finalement qu'il n'allait pas supprimer l'ONF, parce qu'à un moment, l'ONF risquait d'être refondu dans l'Agence française pour la biodiversité. Finalement, ils ont décidé de quand même maintenir l'ONF, mais de le réformer sur 5 ans. Et je pense que ce qui est assez dangereux, c'est qu'ils veulent essayer de faire une filiarisation, en mettant d'un côté les fonctions de l'ONF qui sont plus de l'ordre régalien, donc police de la forêt, éducation, environnement, et de l'autre côté des gens qui travailleraient plus aux coupes et à la vente de bois, et du coup d'autonomiser petit à petit la fonction commerciale, en fait, de l'ONF, qui, à mon avis, est très dangereux, parce que du coup, dès qu'on autonomise la filière économique, et ben, c'est elle qui fait un peu ce qu'elle veut et qui prend de la place, quoi. Alors justement, ce qui est intéressant ce que disent les gens de l'ONF du SNUPFEN, là, c'est que le rôle des gens qui sont fonctionnaires, c'est de pouvoir prendre le temps d'observer comment une parcelle ou un secteur forestier il évolue, et de pouvoir lier ces différentes fonctions, c'est-à-dire de pouvoir à la fois sortir du bois de forêt, mais en même temps faire attention à l'équilibre environnemental d'une forêt. Et là, du coup, ça tendrait à faire un peu des forêts de production et des forêts de protection touristique, etc. Et voilà. Les agents de l'ONF, ils ont fait depuis quelques années, tout un tas de manifestations. Ils sont allés bloquer le siège de l'ONF à Paris, ils sont montés avec les tronçonneuses et leurs marteaux forestiers à Paris. Ils se les ont fait confisquer par les CRS, tout ça. Ils ont fait une marche pour la forêt qui a duré un mois l'an dernier, qui était assez importante. Et ils se rallient à tout un tas de... En termes de lutte, ils disent se rallier à tout un tas de secteurs comme l'hôpital en France qui tend à se faire privatiser, quoi. Donc une stratégie plutôt juridique, une stratégie plutôt réformiste du côté de l'ONF et on pourrait dire une dernière stratégie comme ça qui s'attache au problème de manière globale, qui est plus une stratégie de communication ou symbolique avec une organisation là qui est née en 2018 qui s'appelle Canopée, qui mène des campagnes contre l'huile de palme, pour des forêts vivantes. Donc eux, ils se définissent plutôt comme des lanceurs d'alerte et ils réalisent des expertises sur ces sujets, etc. Je pense que ces stratégies qui sont à grande échelle, qui traitent le problème de manière globale, elles sont tout aussi nécessaires qu'insuffisantes pour s'attaquer au problème de l'industrialisation de la forêt aujourd'hui, parce qu'elles font des tentatives, elles créent des rapports de force avec l'État ou des tentatives juridiques. Et en même temps, on voit bien que si ça n'éclot pas sur quelque chose, elle donne aucune prise en fait sur ce qui se passe en forêt actuellement, sur les abatteuses qui viennent faire des énormes coupes rases dans tout un tas d'endroits en France. On a l'impression qu'elle nous laisse un peu comme ça dépossédés de ce qui se passe réellement en forêt. Et du coup, ce qui émerge et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que ces tentatives-là, elles sont vraiment liées avec tout un autre terreau de pratiques qui sont localisées à des endroits très précis et qui émergent depuis des collectifs qui en fait travaillent en forêt. Se réapproprient des forêts, rachètent des forêts, occupent des forêts et du coup sont vraiment sur le terrain à essayer de refaire des choses qui petit à petit risqueraient de disparaître si on laissait juste la place à l'industrie, quoi. Donc je vais vous parler un peu de l'histoire d'un collectif de paysans forestiers qui se situe en Ardèche. Dans un petit hameau qui s'appelle Trénas. C'est des gens qui ont rejoint Longomaille, la coopérative Longomaille, et qui, en fait, ont tout un tas d'activités paysannes, donc qui élèvent des animaux, qui cultivent des légumes, etc., et qui, à partir de certaines rencontres qu'ils ont faites dans le temps, avec notamment un bûcheron un peu phare qui s'appelle Pascal Menon, et un débardeur, quelqu'un qui leur a appris à un débardeur à cheval, qui ont développé en fait des pratiques forestières, donc de bûcheronnage. Ils ont racheté petit à petit les forêts qui se situent autour de leur hameau, et en fait ils viennent prélever des arbres pied par pied, quoi. Ils font pas de coupe rase, mais c'est la foresterie, ça a toujours été comme ça normalement. Et ils débardent les arbres à cheval. Et ce qui est intéressant, par exemple, et qu'ils font eux, c'est qu'ils vont même racheter, là, ils sont en train de racheter des plantations de Douglas. Ils en ont déjà racheté par ailleurs. Donc, ils rachètent des plantations. Donc, c'est une sorte d'héritage industriel. Et ils viennent ouvrir, c'est-à-dire prélever des arbres dans ces plantations-là pour laisser émerger d'autres arbres et refaire de la forêt mélangée et de la forêt diverse en termes d'âge d'étages forestiers. Voilà. Et en fait, ces gens-là, petit à petit, il y a d'autres personnes qui sont venues à leur rencontre pour leur dire, c'est très intéressant, ce que vous perpétuez comme savoir, ça tend à disparaître à plein d'endroits en France. Et du coup, on voudrait que vous nous formiez à ce que vous faites, quoi. Et maintenant, ils ont petit à petit, ça a évolué, ils ont pris ça à bras le corps. Et maintenant, il y a plusieurs chantiers de formation qui sont organisés chaque année, de formation au bûcheronnage pour des gens qui ne sont pas du milieu forestier, pour des collectifs qui veulent faire ça dans leur forêt locale, etc. Et du coup, ces gens-là se sont aussi dit il faut qu'on soutienne des luttes territoriales, comme à Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, le collectif de Trénas est vraiment venu soutenir et rendre consistant le groupe Abracadabois qui est né sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour faire des choses dans la forêt de Roanne. Et du coup, ils montent chaque année avec 4 chevaux, avec toute une équipe de bûcherons, les vieux, les jeunes, etc., les débardeuses à cheval, et viennent faire les chantiers à Notre-Dame-des-Landes. Ils leur ont donné une scie, donc il y a un vrai soutien comme ça qui a permis aussi, je pense, de rendre consistant au vu du pouvoir le collectif qui est sur la ZAD aujourd'hui et qui va essayer en fait d'obtenir la gestion et l'usage de la forêt de Roanne qui appartient encore au conseil départemental et dont la gestion devrait revenir à l'ONF en fait. Mais là, le but d'Abracadabois, c'est de pas laisser la gestion totale à l'ONF. C'est-à-dire, eux, ils voudraient bien sûr faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir faire les chantiers comme ils veulent, sélectionner les arbres comme ils veulent sur la forêt de Roanne, qui est une forêt là qui, avec les interventions, devient très intéressante parce qu'il y avait des plantations, donc d'épicéacidca, de douglas, de pin sylvestre qui avaient été faites, et aujourd'hui, ça devient une forêt mélangée. Qui, du fait de la déprise avec le projet d'aéroport, plus personne n'est venu intervenir dessus pendant 50 ans, donc ça devient très intéressant. La forêt a pu vieillir tranquille, quoi. Donc voilà. Et Et en même temps, on voit bien que si, à travers ces pratiques-là et même toutes les occupations de forêt qu'il y a en France, que ce soit contre le grand contournement de Strasbourg, à Bure, le Bois-le-Juc, à Roibon, là près d'Orléans, contre le pont de la Loire, sur le plateau de Mille Vaches, il y a aussi un projet d'usine appelée qui est contesté. C'est des luttes ultra locales et des pratiques aussi de rachat de forêt qui sont à des petites échelles et qui en plus nécessitent de une temporalité très longue, c'est-à-dire quand on intervient en forêt, on va peut-être revenir 20-30 ans après et c'est difficile d'entrevoir comment ces pratiques-là elles peuvent faire face à en face les abatteuses, l'industrialisation de la forêt qui d'un coup va très très vite, qui se base en plus tout ce mouvement là de il y a tout un moment où les politiques ont dit mais on a énormément de forêts en France, ça grossit tout ça. En fait, c'était il y a une estimation à un moment qui a été faite qui était fausse de la quantité de forêts et d'arbres en France et tout un tas de enfin il y a toute une stratégie productive qui a été faite à partir de ce calcul là qui en fait s'est révélé faux, quoi. Une minute, ça me va, ouais. Et donc voilà, en dernier lieu, donc sur les pratiques locales, il y a le réseau des alternatives forestières qui est en train de créer un fonds de dotation qui s'appelle Forêt en vie. Et en fait, c'est une sorte de, on pourrait dire que pour contrer l'appropriation des milieux, on utilise un peu quand même une arme du capitalisme, du début du capitalisme, qui a été la propriété privée, en essayant de racheter tout un tas de forêts en France. Mais c'est tout de même pas de la propriété privée au sens commun, puisque l'idée de ce fonds de dotation, ce serait donc de racheter des forêts pour que des collectifs locaux puissent y faire des choses. Et de racheter des forêts menacées, soit par des couperas, soit par des constructions, de l'urbanisation, tout ça. Et l'idée, c'est que si les collectifs locaux qui agissent sur ces forêts, donc qui viennent prélever du bois, un peu entretenir des choses, tout ça, si un collectif local dégringole ou ne respecte pas la charte qui a été accordée au début par le RAF, et bien en fait, la forêt revient au réseau, quoi, et n'est pas revendue à n'importe quel industriel qui viendrait. Donc c'est une sorte de propriété qui est conditionnelle, qui est un peu spéciale, quoi. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a la potentialité de ces différents chemins pour lutter pour la défense des forêts. Elle se situe dans l'articulation, en fait, entre des endroits très locaux qu'ont les mains dans le bois, quoi, et des initiatives comme ça qui font des sauts pour se mettre au niveau de la loi ou au niveau d'essayer d'obtenir une réforme, voilà. Et il faut vraiment que le lien subsiste entre les deux pour obtenir des choses, quoi. Et les endroits qui tiennent un peu les deux fils à la fois, c'est plutôt les luttes de territoire qui vont en effet agir et défendre, par exemple, un bout de forêt en s'adressant à beaucoup plus, puisqu'à différents endroits, que ce soit contre les Center Parks ou différents projets, c'est de dire, bon, bah, ça n'a pas lieu d'être ici, mais pas non plus à 100 km. Et... voilà.
Bon, donc je prends la suite de Manon. Bonjour. À t'écouter, Manon, je me suis dit qu'avant de commencer à parler, je vais peut-être dire ce dont je vais parler. Il faut que je le précise mieux parce que je vais parler du livre. Je vais partir du livre de Jean-Baptiste Vidalou, Être forêt. Mais pour dire que forêt, dans ce titre, ça n'a rien à voir avec les grandes plantations de forêt en monoculture qui ont pour but simple de produire du bois le plus rapidement possible sans respecter avec le temps de l'économie et non pas le temps de la forêt, le temps de la terre pour produire justement et laisser venir ces arbres. Donc les forêts dont je vais parler ou la forêt, hein, ce ne sont pas les plantations qu'on appelle encore forêt et des arbres qu'on appelle encore arbres, mais qui sont de la matière première pour l'industrie, qui ne sont plus véritablement des arbres ou des forêts. Donc Jean-Baptiste Vidalou, il a écrit donc ce livre qui s'appelle « Être forêt ». Je pense que bon, peut-être beaucoup d'entre vous l'ont lu ou parcouru. Moi, c'est un livre qui a compté pour moi. J'en ai fait, c'est vrai, une recension. Et je vais partir d'abord présenter peut-être Jean-Baptiste Vidalou, si certains ne le connaissent pas. Il est philosophe et il se définit aussi comme bâtisseur en pierre sèche, c'est-à-dire qu'il vit, ou il a vécu en tout cas, dans la forêt cévenole, dans cette partie des Cévennes, qui est un paysage qui est aussi très humanisé, et il y avait partout en tout cas, des murs en pierre sèche. Et ces murs en pierre sèche aujourd'hui sont souvent à l'abandon. Donc, il y a des rebâtisseurs de murs en pierre sèche. Et donc, il habite la forêt cévenole. En tout cas, c'est à partir de là qu'il travaille sur ce livre-là. Donc, bâtisseur à la fois et philosophe. Et dans ce livre, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il mène à la fois une enquête sensible, une enquête historique et philosophique autour de... Je le cite, il se passe quelque chose du côté des forêts. Donc, je vais essayer dans 10 minutes, un quart d'heure, de voir ce que c'est ce quelque chose au niveau des forêts. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des forêts? Bon, à partir de Vidalou et d'autres, ensuite, je le dirai. Donc, lui, il part de son expérience cévenole et en particulier d'une lutte qui est toujours là, dans les Cévennes, contre la centrale à biomasse de Gardanne, qui est censée remplacer les centrales à charbon, qui seront définitivement supprimées en 2023. Et donc, c'est la promotion d'une centrale à biomasse, et la forêt cévenole, bien sûr, rentre dans le périmètre d'exploitation du bois pour nourrir pour nourrir l'entreprise de Gardanne. Et à ce titre-là, il y a une résistance très importante dans cette forêt contre l'usine à biomasse de Gardanne. Donc, il part de son expérience Cévenol. Et bien entendu, il se réfère aussi, quand on pense aux Cévennes, et c'est ça qui est, je trouve, intéressant aussi, à un imaginaire qui est très fortement ancré dans des lieux, dans ces lieux-là. Les Cévennes ont une histoire de résistance très importante qui vient aussi sans doute de leur géographie. Elle a dû agir aussi sur les luttes politiques. En tout cas, c'est la thèse de Vidalou. Moi, je la partage. Donc, c'est ancré dans la géographie des lieux. On pense bien sûr aux Camisards au XVIIIe siècle, de ces luttes des protestants dans cette région par rapport à tout ce qui pouvait se passer. Donc, une résistance très forte des Camisards par rapport à l'armée. Ils ont dû lutter véritablement de manière militaire. Et aussi aux maquis dans la Seconde Guerre mondiale, aux maquis antifascistes dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc, son livre est imprégné aussi de cet imaginaire. Et Vidalou n'est pas son vrai nom. Il a emprunté ce nom à un berger qui vivait en Ariège au XIXe siècle, qui s'appelait Jean Vidalou et qui a été une figure emblématique de ce qu'on a appelé en Ariège la guerre des demoiselles, c'est-à-dire un combat extrêmement intéressant. Bon, c'est pas le sujet là. Un combat extrêmement intéressant contre des gardes de bergers, de personnes qui vivaient de ces communs qu'étaient ces forêts ariégeoises, et une volonté de transformer ce bois en charbon de bois. Donc, ils se sont battus contre les maîtres des forges et contre les gardes forestiers qui étaient alliés aux maîtres des forges. Et ça a donné une guerre dans les années 1830 extrêmement qui a marqué l'histoire, justement, des communs en France, de la récupération des communs. Donc, Vidalou, c'est le nom de ce berger qui a mené quand même beaucoup de combats en Ariège au XIXe siècle. Et également, Vidalou, il se réfère, je vais très vite, à ce que tu as dit, c'est-à-dire la forêt d'Ambach en Allemagne, Bure, Notre-Dame-des-Landes, bon, etc., etc. J'ajouterai aussi, mais ça, il n'en parle pas, mais moi, je l'ajoute, tout, parce que tu as parlé de l'Amérique latine, des mouvements très, très forts en Asie aussi sur les questions des forêts. Le mouvement Chipko en Inde avec Vandana Shiva, qui est toujours d'ailleurs un mouvement extrêmement vivant, puisque les forêts, dans cette tradition-là, il est difficile de les considérer comme simples ressources économiques. Parce qu'il y a une spiritualité de la forêt aussi, il y a quelque chose de la forêt qui n'a pas été complètement détruit. Donc, partout dans le monde, on voit surgir ce quelque chose qui se passe dans les forêts. Alors, ce que j'ai retenu de ce livre qui est absolument foisonnant, c'est que finalement, les forêts dans le livre de Vidalou, ce ne sont pas simplement des espaces géographiques en tant que tels. C'est aussi l'imaginaire de ces espaces géographiques. Et ces forêts, finalement, on peut les retrouver aussi, on pourrait les retrouver éventuellement sur des ronds-points, j'y reviendrai si j'ai le temps. On peut retrouver aussi cet imaginaire-là d'une résistance ailleurs, dans des banlieues, dit-il. Donc, ce n'est pas uniquement la forêt comme lieu géographique. C'est aussi tout ce qui résiste à la civilisation industrielle, à la civilisation occidentale, dans le livre de Vidalou. Donc, les forêts restent un extérieur à la civilisation occidentale, à la modernité. Moi, j'ajoute au capitalisme néolibéral, qui a été fondée, et ça depuis le départ, sur la raison. Qui a été fondée sur la raison, sur une raison instrumentale, une raison technicienne, une raison qui voulait faire la lumière par rapport au monde de l'obscurité. Ça a été aussi toute la philosophie des Lumières dont nous avons hérité. Bon, là, on peut pas discuter de la part de l'héritage que nous voudrions conserver et ce que nous ne voulons pas conserver. En tout cas, cette philosophie des Lumières s'est posée par rapport à la soi-disant obscurité du Moyen-Âge. Et les forêts, c'est précisément le lieu de l'obscurité. C'est le lieu des esprits. le lieu où la raison ne peut pas véritablement s'exercer. Et donc, dans la tradition occidentale, je dis bien tradition et tradition industrielle, hein, l'obsession a été l'arasement des forêts aussi. Et le paysage qui devait dominer, c'est la plaine, c'est la transparence. Et ce sont les grandes cathédrales gothiques aussi, en pleine plaine, qu'on voit de très loin. C'est la transparence, c'est le contrôle aussi. Parce que la forêt, c'est de l'ordre de l'incontrôlable, de l'ingouvernable. Et donc, il y a eu cette volonté de prise, hein, de contrôle, hein, qui est typiquement la civilisation occidentale, la civilisation technicienne et industrielle occidentale. Donc, on devait sortir des ténèbres, hein, et des esprits, vaincre l'obscur, vaincre l'ingouvernable et rendre ce monde, alors ça, c'est vraiment le néolibéralisme, rendre ce monde complètement transparent. Hein, transparent, traçable. Or, dans les forêts, ce qui se passe, ça abrite du secret aussi, les forêts. On peut se cacher dans des forêts. C'est pour ça que les forêts ont abrité de la résistance aussi. Donc, dans le défrichement des forêts, il y a l'aspect économique, évidemment, mais il y a aussi tout un imaginaire, disons, hein, je le disais à midi, j'ai lu un article de quelqu'un qui parle de l'épilation des forêts en Amérique latine. C'est-à-dire, on ne veut rien laisser, il faut un territoire complètement nu. Hein. Et ce nu, le capitalisme a besoin du nu pour le remplir, a besoin du vide pour toujours remplir, remplir, remplir. Et donc, c'est un petit peu ça aussi, la déforestation, c'est faire le vide pour le remplir. Et Vidalou montre comment l'expérience de la forêt, pour lui, a été une expérience aussi de l'habiter, avec un sentiment d'appartenance véritablement à ce milieu de vie, je ne dis pas écosystème, hein, à un milieu de vie. Et il met en évidence la vitalité, justement, de ce milieu de vie, qui est tout à fait différent d'ailleurs de tout le vitalisme technique dans lequel nous vivons. Et il a une phrase qui je trouve très belle, il dit « La forêt, c'est le lieu dans lequel on peut à la fois s'enraciner et surgir. » Et là, je pense à la guerre des demoiselles, parce que justement, ces guerriers des demoiselles, ils étaient déguisés en général pour lutter contre les maîtres des forges. Et donc, il y avait une sorte de grand carnaval, en fait. C'était un peu carnavalesque, c'est leur lutte. Et ils se cachaient, ils surgissaient, c'était la surprise. Et je trouve ce verbe « surgir » est juste, et donc des mouvements qui peuvent à la fois se cacher, s'enraciner, prendre le temps, et surgir quand c'est nécessaire, et qui évoque aussi une certaine verticalité qui est inédite. Donc un rapport, finalement être forêt, c'est mettre en avant un rapport concret et sensible. Et donc c'est dans ce sens au monde. C'est dans ce sens-là que ça peut être vécu dans d'autres zones que ce que nous appelons les forêts d'arbres. Hein, ce rapport concret et sensible est en opposition à cette modernité qui arase tous les liens qu'on peut avoir aussi bien avec la terre qu'avec les autres humains. Et donc, c'est puisque le titre de cette table ronde, c'est aussi écrire, j'ai oublié le titre, écrire les luttes et les forêts. Eh bien, justement, c'est écrire les luttes et les forêts, c'est penser aussi, c'est penser les luttes et les forêts, mais c'est une pensée qui fait corps avec le monde, qui fait corps avec la terre, moi je dirais, mais c'est pareil. Hein, c'est véritablement, il y a un engagement des corps dans ce rapport sensible au monde. Donc ça, c'est l'apport de, vraiment, je trouve, de Jean-Baptiste Vidalou. Après, je crois qu'on peut-être discuter éventuellement cette notion de être forêt pour nous humains. L'intérêt, c'est que ça nous déplace de l'anthropocentrisme. Nous, c'est être humain. Hein, c'est comment faire pour être humain. Là, il y a une injonction à devenir forêt, à être forêt. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier ? Donc, évidemment que ça signifie un déplacement par rapport à l'anthropocentrisme que nous vivons. Il écrit « Les camisards sont la forêt ». Et on voit chez les activistes d'aujourd'hui le slogan qu'on reprend souvent, nous ne défendons pas la nature ou la terre, nous sommes la nature qui se défend. Alors, on peut le discuter, mis à part l'anthropocentrisme, le déplacement de l'anthropocentrisme que je ne discute pas, parce qu'il y a quelque chose quand même dans ce être forêt où nous sommes la nature qui se défend, de fusionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus d'altérité, je dirais. de la nature ou de la terre, dès lors que nous disons « nous sommes forêt, je suis forêt » ou « je suis la nature qui se défend », ça veut dire que l'altérité, cette altérité radicale, cette extériorité radicale de la terre, cette sauvagerie dans laquelle il y a précisément le sombre, le noir, le caché, eh bien cette sauvagerie peut disparaître. Donc je crois que être forêt, c'est aussi se dire que enfin, les forêts, c'est aussi un extérieur, pas seulement au capitalisme, à la civilisation occidentale, rationnelle, etc. C'est aussi un extérieur à l'expérience humaine. Elles sont de l'ordre du non-humain, du ahumain, voire de l'inhumain. C'est pour ça qu'elles sont ingouvernables, parce qu'il emploie souvent le terme « ingouvernable ». Elles sont de l'ordre de l'inhumain. Et être forêt, bon, j'avoue que je l'ai critiqué positivement, hein, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais il y a quelque chose comme rechercher une intensité dans « nous sommes forêt ». Il parle de force tellurique de la terre, de la force tellurique des forêts, comme si nous pouvions, nous humains, nous réapproprier cette force tellurique et la mettre au service des résistances. Et donc, je pense qu'il faut se garder de cette toute-puissance qui consisterait à penser que nous pouvons nous approprier ces forces qui sont extra-humaines au-delà de l'humain, de la Terre. Elles sont radicalement au-delà de l'humain. Et donc, finalement, cette question des forêts, c'est aussi notre limite. C'est-à-dire qu'être forêt, c'est encore, finalement, je crains que ce soit encore une pensée qui soit dans l'illimite. Là, au contraire, si nous posons la forêt comme à la fois c'est un rapport concret au monde, un rapport sensible vers lequel nous devons absolument aller, nous devons être, il n'en reste pas moins qu'il y a une asymétrie dans nos relations et que demeure ce que dirait Virginie Marie, elle dit la part sauvage du monde. Bon, mais la part sauvage du monde, c'est aussi notre part sauvage. C'est qu'il faut aussi cultiver. C'est aussi la nuit, l'obscur, et c'est ça justement qui est insupportable dans le monde dans lequel nous vivons, où tout doit être absolument éclairé. C'est éclairé par, aujourd'hui, essentiellement, la raison technicienne. Donc, je crois qu'il me semble, mais c'est à discuter, qu'il faut se garder peut-être d'une espèce d'aspiration fusionnelle, d'une fusion avec les forêts. Et là, je me réfère à une minute, voilà, je conclue, à un livre que je conseille aussi, qui justement pose la question de la limite, de la verticalité, de la part sombre, du noir, de par rapport à toute la positivité qu'on nous demande de mettre en avant aujourd'hui. C'est un livre d'Annie Lebrun qui s'appelle « Perspectives dépravées entre catastrophes réelles et catastrophes imaginaires » où précisément elle écrit bon, de manière extrêmement sensible et poétique, je dirais, pour Annie Lebrun et comment dire, sur la nécessité pour les soulèvements dont nous avons besoin, de préserver, d'être les gardiens absolus. Les gardiens de la forêt, c'est les gardiens de cette part d'ombre, de cette part sauvage, de cette part ingouvernable, non domesticable. Et donc, plutôt que être forêt, c'est, je dirais plutôt, penser et agir avec la forêt. Laisser être la forêt, tu as dit quelque chose, je trouve, de très beau. La forêt a pu vieillir tranquille du fait du projet de Notre-Dame-des-Landes. Ben oui, hein, il y a eu une déprise et la forêt a pu être sans cette emprise humaine sur la forêt. Voilà donc.
Ok, donc je vais continuer après Geneviève. Moi, je vais plutôt présenter deux livres qui appartiennent à l'anthropologie. Un livre d'Anna Tsing qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde » et un livre d'Eduardo Cohn, « Comment pensent les forêts ?» Donc je vais faire un exposé rapide de leur bouquin, puis je vais essayer de développer une perspective en décalage par rapport à eux, à partir de ce qu'ils apportent. Et ce qui est important, ce sur quoi mon intervention va porter, c'est en fait ce que l'anthropologie peut faire ou non à nos catégories politiques. Alors, Eduardo Cohn et Anna Tsing, ils sont les initiateurs, avec d'autres, d'un renouveau de la pensée anthropologique par-delà l'humain, en tant que cette anthropologie, paradoxalement, elle permet de nourrir une vision non anthropocentrée des milieux, et notamment des forêts, sur lesquelles leurs ouvrages portent. Et ce qu'ils ont, le projet qu'ils ont, en fait, c'est une tentative de redescription des mondes pour faire surgir d'autres acteurs contre une vision exclusivement instrumentale du monde et contre un certain anthropocentrisme des catégories des sciences sociales. Et on pourrait dire qu'ils essayent de sortir du solipsisme social. Vous savez, il y a toujours le solipsisme de l'individu, de l'ego. Là, c'est comment sortir, une fois qu'on a capté que l'individu n'était pas quelque chose d'autosuffisant, d'indépendant, c'est comment le social lui-même n'est pas quelque chose d'indépendant, ce que Christophe disait tout à l'heure en intro. Pardon. Et donc sortir du solipsisme social, c'est sortir du fait que, arrêter de nous prendre comme s'il n'y avait pas d'autres réalités intéressantes à décrire que les seules relations humaines. Et donc, l'enjeu derrière ces anthropologies par-delà l'humain, c'est faire sauter les catégories dualistes de nature et de société, qui ne sont pas explicatives en elles-mêmes, mais qui sont elles-mêmes à expliquer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les prendre comme déjà données et les lunettes à partir desquelles on va faire nos études. Mais en fait, on va remettre en question ces catégories elles-mêmes dans leur pouvoir explicatif. Et c'est ce que fait Anna Tsing avec Le champignon de la fin du monde, qui est sorti en 2015. Elle s'inscrit un peu dans les nouveaux récits de ce qu'on peut appeler les nouveaux récits de l'Anthropocène. À la différence que par rapport au récit de l'Anthropocène, elle s'attache vraiment aux micro-relations plutôt que de prendre le point de vue du tout, le globe, le global, que pourrait suggérer à première vue le terme d'Anthropocène. Elle s'intéresse aux fragments plutôt qu'au tout. Et elle fait une ethnographie très minutieuse. Si vous avez lu le livre, vous le savez. Elle fait une ethnographie très minutieuse de la vie d'un champignon qui s'appelle le Matsutake, champignon japonais, qui est pris dans les réseaux mondiaux du capitalisme. Parce que, en fait, à un bout de la chaîne, il y a des champignons qui poussent grâce à des symbioses mycorhiziennes avec des arbres. Et en fait, il y a des cueilleurs cueilleurs précarisés qui récoltent ces champignons Matsutake, pardon, qui ne poussent que dans les forêts mises en ruine, ravagées par l'industrie, qui vendent ces Matsutake, qui voyagent jusqu'à l'autre bout de la planète, qui sont redonnés ensuite comme un cadeau dans la société japonaise. Ils reviennent sous la forme de dons. C'est une tradition au Japon de s'offrir des Matsutake. Et du coup, ils ressortent de l'économie marchande au bout du compte. Et ce à quoi veulent nous intéresser Anna Tsing, c'est à la manière dont ce ne sont pas seulement les humains qui fabriquent des mondes, qui fabriquent des économies, mais ce sont les relations entre non-humains et entre non-humains et humains qui fabriquent des mondes. Elle dit finalement les forêts aussi fabriquent des mondes. Les forêts, ce n'est pas juste une totalité dans laquelle il y aurait des arbres qui seraient posés là et qui pousseraient. En fait, la forêt, c'est le produit même de l'interrelation des champignons, des bactéries et des arbres même, et des vents, etc., du soleil. Et donc, elle restitue une capacité d'action, une puissance d'agir, normalement réservée aux êtres humains, à des êtres non humains. Et donc, Tsing, elle introduit, je ne sais pas si elle qui l'introduit, mais elle introduit le terme de troisième nature. Troisième nature, ça veut dire quoi? C'est un peu abstrait comme ça, mais la première nature serait la nature des relations extra-humaines et humaines, modifiées par les humaines, mais de manière légère. La deuxième nature, ce serait la nature historique créée par les agencements techniques et scientifiques du capitalisme. Et la troisième nature, c'est ce qui parviendrait à survivre malgré le capitalisme, dans les marges du capitalisme. Cette troisième nature, c'est l'exemple même de ce qu'elle appelle la survie collaborative. C'est-à-dire qu'il n'y a de survie jamais en tant qu'individu, une espèce de survie héroïque de l'homme triomphant, il n'y a que de survie collaborative grâce aux symbioses. Je vais présenter maintenant le bouquin d'Edouard Decaune, qui lui aussi traite des forêts. Alors, le bouquin s'appelle « Comment pensent les forêts ?» Il est sorti en 2013. Donc, c'est un travail ethnographique qui a été mené en Amazonie avec les Runas d'Équateur. Exact, oui. Pardon pour le... Alors, ce qu'il veut faire, Edouard Decaune, avec cette étrange proposition que les forêts pensent, étrange proposition du moins aux oreilles occidentales, ce qu'il veut faire émerger, en fait, c'est ce qu'il appelle la pensée sylvestre, la pensée forestière. C'est-à-dire, c'est un type de pensée vivante, accessible à tous, qui s'étend par-delà l'humain. Et il nous dit quelle est cette pensée sylvestre particulièrement visible et sensible dans la forêt tropicale, peut-être plus que dans les rues de Paris. Faire émerger la pensée sylvestre, ça suppose de effacer la séparation entre l'esprit et le reste du monde. Esprit qui serait, dans la tradition anthropocentrique humaniste, réservé aux seuls humains. Sa question, c'est si les humains se représentent les autres formes de vie, qu'est-ce qui se passe quand l'anthropologie prend acte que d'autres formes de vie représentent les humains? Par exemple, Edouard Decaune, il a cette anecdote parlante où il est en bivouac une soirée en forêt avec les gens, les Runas, et on lui dit « Dors face contre terre si tu veux pas que le puma ou le jaguar, je ne sais plus quel animal, vienne t'attaquer. Si tu es face contre terre, en fait, il va te prendre pour un objet comestible. Si tu dors face vers le ciel, il verra que tu as un visage et tu es une personne. Et du coup, il ne te mangera pas. » Et qu'est-ce que fait l'anthropologie de ces situations-là où ce ne sont pas seulement des humains qui ont une perspective culturelle sur le monde naturel, mais ce sont des êtres vivants, non humains, qui perçoivent les humains, et les humains sont obligés d'incorporer cette perception pour continuer à vivre dans le monde. Edouard Decaune, il dit que l'anthropologie, à partir de là, doit se penser comme une écologie transspécifique des soies. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire une écologie rassemblant une pluralité d'espèces, mais une pluralité d'espèces, pardon, non plus pensée comme des blocs anonymes, des entités collectives anonymes, mais comme des soies percevant, ayant un point de vue agissant sur le monde et pouvant modifier les points de vue autres qu'ils perçoivent, le point de vue des autres, et obligeant les autres à agir en fonction de leur propre point de vue. Et donc, un écosystème partant de là, ça devient un réseau de points de vue qui s'entre-interprète par ce qu'il appelle des signes. Et donc, les interactions écologiques, dans cette manière-là de voir la forêt, les interactions écologiques, elles dépendent de la manière dont différentes sortes de soies, un jaguar, un toucan, un chasseur, un phasme, un singe, une plante, comment les uns les autres se représentent les uns les autres. Et donc, les relations entre les vivants sont des relations sémiotiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est un livre assez technique, mais qui est assez fascinant par la matière qu'il déploie et la manière dont il l'interprète. Et en gros, il essaye simplement de casser l'identification entre le symbole, le symbolique, par exemple les mots que j'utilise en ce moment, et d'autres types de signes, enfin casser l'identification pardon, entre le symbole et tout type de signe. En fait, il fait émerger d'autres types de signes qui sont les icônes, ou les images si on veut, et les indices. Et donc, si les collectifs humains utilisent majoritairement des symboles pour communiquer entre eux et communiquer à propos du monde, ils utilisent et ils sont aussi ouverts à d'autres types de signes émis par les êtres et les soies qui peuplent la forêt. Et donc, on a, comme chez Anat Singh, une anthropologie qui veut se reconstruire sur la mise en question du privilège ontologique qu'on accorde à l'humain comme sujet connaissant, sujet ayant un point de vue sur le monde, en démultipliant ce qui peut avoir une puissance d'agir et d'avoir un point de vue sur le monde. Donc la forêt, ainsi redécrite, on pourrait dire qu'elle pourrait nous aider à repenser la politique, c'est-à-dire repenser la politique par-delà l'humain, par-delà le modèle de la société qui, elle, agirait sur une nature qu'elle aurait la charge de maintenir en tant que stock de ressources inanimé. Alors bien sûr, il y a un penseur aujourd'hui qui s'inscrit dans la continuité de ces deux auteurs, de Tsing et Kohn, c'est Bruno Latour. Par exemple, dans Où atterrir, il a cette phrase « Pour mouliner de la politique, il vous faut des agents qui joignent leurs intérêts et leurs capacités d'action. Mais vous ne pouvez pas passer d'alliance entre des acteurs politiques et des objets extérieurs à la société et dénués de puissance d'agir. » Et donc, partir d'une nature extérieure, ce serait, pour construire notre écologie politique, ce serait voué à l'échec et reconduire la mobilisation d'une nature à laquelle on dénierait en fait, sa pleine réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire créer, construire des alliances avec des êtres non humains? C'est un peu une question qui se pose. Et notamment, avec Anna Tsing, on pourrait dire que la question pour elle, c'est de trouver des causes communes entre des vivants humains et des vivants non humains. Des causes communes donc, qui permettraient de redéfinir ce que c'est le commun de manière multispécifique par de l'humain. Et tout l'enjeu pour elle, c'est, comme le fait son bouquin magistralement, c'est d'activer d'autres modes d'attention à nos milieux pour devenir attentif à ces causes communes qui peuvent exister à travers les espèces, qui peuvent franchir les barrières d'espèces. Des causes communes qui sont, elle nous dit, fragiles, instables et difficilement institutionnalisables. Eduardo Kohn, de son côté, lui, il travaille du côté politique. Il travaille du côté de la reconnaissance légale de territoires forestiers, notamment avec les Sarayaku, en Équateur, territoires forestiers qui sont habités et que ces Sarayaku appellent Kawazak Sacha. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est pareil que les droits de la nature. En fait, faire reconnaître les droits à la nature. En fait, Eduardo Kohn essaye de montrer comment les Sarayaku en fait, nous enseignent, essayent de nous faire comprendre que on ne peut pas parler seulement d'écosystème au sens classique. Pour comprendre une forêt, en fait, il faut comprendre, comme dans la lignée de ce qu'il nous a décrit dans son bouquin, qu'une forêt est un ensemble de vivants composé de soies écologiques et de relations de communication entre eux. Et donc, on n'a plus un écosystème de flux, d'énergie, de métabolisme, etc., comme la science occidentale nous les décrit. On a des écosystèmes, en un sens, animistes, animés. C'est-à-dire, ce qui est en relation, ce sont des personnes. Humaine et autres qu'humaines. Et en fait, notre existence, notre survivance dépend de la manière dont se passent les relations entre ces personnes. Alors, ceci étant dit, on peut se poser la question de quelle est la teneur politique de ces propositions d'alliance avec les autres qu'humains, les forêts en l'occurrence. Il y a une critique qui est adressée à ce qu'on appelle le tournant non humain, donc qui peut être le nom qu'on donne à ces tentatives anthropologiques de penser l'homme, penser le monde par de l'humain. Cette critique, c'est celle de dire en fait finalement vous célébrez des rapports sensibles et immédiats aux vivants, mais en faisant cela vous revenez à placer au centre les non humains et non les rapports de domination. Au centre de votre analyse de la vie sociale. Dès lors, que deviennent les rapports de force spécifiquement entre humains et que devient la violence notamment du pouvoir capitaliste dans cette nouvelle anthropologie et ce réenchantement du monde? Et donc, quelle est la portée politique de vos anthropologies? Même si l'enjeu n'est pas directement de faire une proposition politique, néanmoins, elles assument de dire qu'elles portent quelque chose d'un renouveau à l'endroit des catégories politiques. En fait, est-ce qu'on n'aurait pas une confusion dans ces travaux-là entre le vivre ensemble et l'action politique conflictuelle? Est-ce qu'on n'aurait pas une confusion entre une volonté de composition des relations entre humains et non-humains avec une bonne gestion des relations des humains et non humains, qui seraient inspirées ici des cosmologies animistes, là de l'écologie ou de l'éthologie la plus récente. Est-ce que finalement, ces manières-là de concevoir les relations humains non humains, elles ne sont pas intégrables d'une manière ou d'une autre aux instances de pouvoir en place? On pourrait peut-être en parler. Il y a une tentative aujourd'hui en France qui s'appelle le Parlement de Loire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est une proposition de représenter la Loire dans nos systèmes de représentation politique. 2 minutes. Ouais. Alors, dernier moment de la discussion pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut comprendre alors si on veut garder les apports du tournant ontologique de l'anthropologie et les critiques du capitalisme qui sont issues aussi de la modernité, même si ce n'est pas le seul endroit d'où émergent ces critiques, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, des traditions politiques, militantes, de libération vis-à-vis du capitalisme, le socialisme, l'anarchisme, le communisme, etc. Et qu'est-ce qu'on fait de leur idée de la politique, qui est effectivement plutôt anthropocentrée. Et donc, comment penser une politique des alliances avec les autres vivants ? En fait, on pourrait répondre à ceux qui reprochent au tournant ontologique de laisser de côté les rapports de domination en s'intéressant aux non-humains. On pourrait leur rétorquer que les non-humains font aussi partie des projets de domination et d'émancipation. Pourquoi ils font partie des projets de domination ? Parce que tout pouvoir, en fait, a besoin d'enrôler des non-humains pour pouvoir inscrire, matérialiser son pouvoir. Les agents du capital ont besoin des atomes du nucléaire, ils ont besoin des chiens et des chevaux pour la police, ils ont besoin de tout un tas d'éléments non humains pour inscrire dans les relations et dans les corps leur pouvoir. Et d'autre part, on pourrait dire que, enfin, on pourrait aussi rajouter les pains de Douglas de la monoculture. C'est-à-dire que la domination industrielle aujourd'hui, elle est fondée sur la puissance d'agir des Douglas à pousser rapidement, à supporter le froid, etc., etc. Donc, ce n'est pas étranger aux capacités même de ces arbres-là, même si bien d'autres capacités, d'autres dimensions sont négligées dans ces projets industriels. Et de l'autre côté, au-delà de la domination, tout projet d'émancipation est nécessairement associé à des relations avec des non-humains. Et je vais donner quelques exemples pour finir, pour penser ce que ça peut être une alliance politique avec des puissances d'agir non-humaines. Alors, il y a un exemple intéressant qui a été décrit par Katarzyna Bejlin, qui est une anthropologue. C'est l'exemple de l'amarante qui est devenue résistante au glyphosate dans les champs de soja OGM en Argentine et au Paraguay. Ce qu'ils ont fait rapidement, les paysans argentins, en fait, ils ont récupéré des graines d'amarante résistantes. Ils en ont fait des bombes à graines, c'est-à-dire qu'ils ont mélangé ces graines résistantes avec de l'argile et de quoi pousser, et ils les ont envoyées dans les champs d'OGM pour contrecarrer la productivité des champs et contrecarrer les projets industriels. Et donc là, on a bien une puissance d'agir qui est amplifiée, qui est déjà perçue, amplifiée et qui en fait a posé une initiative de résistance à laquelle des humains ont su répondre. Il y aurait d'autres exemples. Par exemple, en France, il y a dans l'Hérault des paysans qui proposent aux gens de semer des graines de tournesol bio auprès des champs d'OGM, qui sont des OGM cachés, enfin, dits cachés, parce qu'en fait, ils contournent la législation pour pouvoir être cultivés en France. Et en fait, en semant des tournesols bio auprès des parcelles OGM, en fait, les pollinisateurs, en butinant sur les tournesols bio et en allant ensuite butiner sur les parcelles de tournesols OGM, en fait, polluent génétiquement les récoltes possibles pour l'industriel et donc en fait, empêchent les études d'aller au bout. Il y aurait aussi la possibilité de greffer sur des arbres stériles en ville des arbres fruitiers, pour faire que la ville redevienne, comme le disent les guérillas grafteurs à San Francisco, pour que la ville redevienne des communs comestibles. Et je sais qu'il y a des gilets jaunes à Montreuil qui sont sur cette expérimentation aussi. Et il y aurait deux autres exemples pour terminer rapidement. Donc il y a ce projet de pont sur la Loire qui est en cours en ce moment, et donc il y a un projet de résistance aussi en face. Et les opposants en fait ont invité, entre guillemets, le balbuzard pêcheur, qui est une espèce protégée, à venir s'installer dans la forêt qui était menacée en construisant une plateforme qui était susceptible de lui plaire. ils ont ils ont mis une caméra en place pour avoir ce qu'ils appellent la balbucam, pour avoir une vision pour les gens, pour intéresser les gens au sort du couple de Balbuzard qui s'est installé. Et en tout cas, ils ont invité, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas directement servis, c'est pas une instrumentalisation, même si la question pourrait se poser. Et la question se pose dans tous ces exemples-là aussi. Ils ont invité un couple de Balbuzard, une espèce protégée, à s'allier à eux. C'est-à-dire que le Balbuzard, il vient là non seulement en tant qu'espèce, mais en tant qu'il est aussi allié à la forêt, qui est son milieu, son habitat. Et donc, on s'allie à une espèce, non pas en tant qu'une chose qu'on mobilise, mais en tant que c'est un existant qui habite. Et voilà, je vais terminer là, parce que j'aurais voulu parler de la forêt de Roanne à la ZAD, mais Manon l'a déjà parlé un peu. Voilà.
On a balayé pas mal de choses. Le but, c'était de vous donner envie de lire. Donc, je pense que beaucoup des livres dont on a parlé sont à côté. Vous avez des remarques, questions, interventions ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la forêt aussi qui produit du bois. Et dans la production de bois, il y a des techniques qui permettent de produire le bois tout en maintenant le couvert forestier, notamment qui s'appelle la futaie régulière ou la futaie jardinée. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment la forêt peut produire, enfin, comment on pourrait... Et il se trouve que moi, j'ai hérité d'une forêt qui est dans un... qui va être inclus dans un parc national. Et maintenant, le parc national va avoir pour mission, sur les 200 ans qui viennent, à devenir de plus en plus naturel. Donc, c'est entre la Bourgogne et la Champagne. Et donc, c'est une forêt de 130 hectares. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on pourrait associer le grand public à ça. C'est-à-dire comment... les gens de la ville qui sont très intéressés par moi-même, je suis très intéressé par ça. En ville, je m'occupe de végétalisation, de choses comme ça. Mais je me demande comment j'y suis allé. Et en fait, la forêt, sans explication, elle, y a pas, on comprend pas trop ce qu'il y a. Et j'ai vu une chose qui me paraissait intéressante, c'était de découvrir le potentiel de biodiversité de la forêt. Donc de recenser un peu tous les endroits, tous les arbres qu'il faudrait garder pour que ensuite il y ait des essaims d'abeilles qui viennent s'installer ou des chauves-souris, etc. Mais je me demande comment c'est organisable, enfin, comment on peut faire ça en dehors d'une forêt qui, elle, n'est pas menacée, puisque c'est une forêt qui va devenir, qui réglementairement va devenir de plus en plus protégée.
Pour éviter des questions de réponse avec une petite question et trois réponses longues, je propose de prendre plusieurs questions à la fois et que vous vous autorisiez dans la salle à réagir ou répondre à une question qui aurait été posée avant, de façon à ce que ça soit un peu plus horizontal. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres interventions ?
Oui, par rapport à la question de la forêt, c'est à Geneviève Vazan. Quand on est écolo, on est souvent dans des situations contradictionnelles. C'est-à-dire que moi, je me sens écolo, j'ai envie d'avoir une maison en bois et j'ai envie de défendre les forêts. Donc, on est là à se dire, et les bois qui servent aux constructions, en général, c'est des résineux. Donc, c'est une question de gestion, c'est-à-dire que là vient se mettre en place la question des communs. C'est-à-dire, on gère la forêt par rapport aux besoins des citoyens et pas par rapport à un bénéfice. Ça serait une question à parce qu'on ne peut pas être d'un côté revendiquer des maisons en bois et de l'autre côté dire... L'autre question que j'ai bien aimé que vous ayez posée, c'est sur les forêts. Il y a quelqu'un qui a écrit, une femme, sur l'ensauvagement des forêts. Alors, quand on écoute la personne dont vous parliez, « Je suis la forêt », on sent pointer quand même quelque chose d'une domination, d'une toute puissance. Et pourquoi ne pas laisser quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est dans l'ordre du mystère et qui permet aux imaginaires de devenir. Sinon, si tout est transparent, tout est clair, on va être des êtres robots. On n'aura rien à chercher. Donc, je trouve qu'on est au début de ce non-humain. Donc, on a des excès. On veut que les non-humains soient comme les humains. Enfin bon, on a une pensée un peu baroque là-dessus. Mais je pense que progressivement, nous allons comprendre qu'on peut respecter de l'autre sans qu'il soit forcément humain. Et moi, je vais l'allonger, ça a l'air bizarre, sur la question du voile, puisque je suis féministe. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec le voile, mais je ne m'autoriserai pas à dire à quelqu'un « ne mettez pas le voile, c'est interdit ». C'est-à-dire qu'il faut qu'on développe, et je pense qu'on ne sait pas beaucoup le faire, la question de la tolérance, c'est-à-dire on doit être tolérant, ça ne veut pas dire qu'on pense dans l'identique de la personne. Et quand vous avez parlé que dans la forêt, il n'y a pas de raison, je pense qu'il y a de la raison sensible. Et ça, il y a très peu de sociologues ou de philosophes qui développent cette notion de la raison sensible. Raisonner en étant capable d'accueillir du sensible. Et c'est ça qu'on va être en train de faire dans les années qui viennent. Parce que là, on est dans des excès. Et je trouve ça très bien. On est obligé de faire des excès. Par exemple, moi, je suis favorable aux femelles, mais je ne le ferai pas. Mais je trouve qu'il y a des moments, il faut qu'il y ait des gens qui prennent le risque de nous réveiller.
Oui, moi, je trouve intéressant de se rappeler de l'étymologie du mot forêt, parce que je crois savoir qu'en latin, forêt, défora, force, c'est le là-bas. Et ce qui est là-bas, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est là où vivent les mauvais esprits. Et c'est l'inverse du, pour les Latins, pour les Romains, du forum, qui est l'espace humanisé. Là où on est chez nous, c'est la place publique. Et donc, dès le départ, dans le vocabulaire dont on a hérité, la forêt est vue comme quelque chose de péjoratif. Et je voulais signaler que dans un département français un peu loin qui s'appelle la Guyane, le pouvoir appartient aux colons. Et le chef des colons actuel s'appelle Rodolphe Alexandre. Et les colons trouvent que la forêt amazonienne qui est là-bas, c'est sale, c'est dégueulasse, ça sert à rien. Et donc, ils viennent de découvrir une nouvelle idée. Pour eux, c'est à la mode. Et puis, il y a des subventions pour ça. C'est pas bien parce qu'actuellement, la Guyane a son énergie à partir de combustion de pétrole qu'on importe du Venezuela. Et donc, il y aurait quelque chose de très écolo à faire. C'est au lieu d'importer du pétrole, de faire d'immenses coupes rases de la forêt amazonienne qui ne sert à rien et de faire des usines sur le littoral pour cramer le bois et faire de l'électricité avec. Alors, ils viennent d'apprendre là-bas qu'il y a un problème avec un règlement de l'Union européenne. On n'a pas le droit de faire des coupes rases pour faire de l'électricité. Alors, ils viennent de trouver une astuce. C'est pour être sous le seuil de la loi qui permettrait quand même de cramer la forêt, au lieu de faire 3 usines, d'en faire peut-être une centaine de micro-usines. Et à ce moment-là, ils échapperaient au respect de la loi de l'Union européenne. Enfin, c'est ce que je viens d'apprendre de la part de quelqu'un qui travaille au ministère de l'Environnement. Alors, il y a le choc entre la mentalité des colons, donc Rodolphe Alexandre, et les Amérindiens, qui sont les autochtones, et qui ont une vision totalement autre, à savoir que la forêt, c'est notre maison, c'est là où on habite, c'est là où on a toutes nos relations, notre cosmologie. Et donc, les Amérindiens sont furieux de ces projets de couper la forêt. Et puis, on vient aussi d'apprendre qu'un gros homme d'affaires a le feu vert du gouvernement Macron Le monsieur s'appelle Millet, je crois, et il a obtenu une concession de 10 700 hectares pour tout raser et à la place planter du teck de Malaisie à pousse rapide. Enfin, voilà ce qui se passe dans un département français actuellement. Il n'y a pas que des histoires d'or, quoi.
Moi, je veux bien répondre à la première question, du coup. Moi, ce que je ferais si j'étais dans votre cas, c'est que j'essaierais de repérer s'il y a des naturalistes dans le coin, dans la région, pour organiser des moments en forêt. Et repérer, par exemple, avec des gens qui connaissent très bien les rapaces ou certaines espèces animales, des botanistes, et du coup de faire un repérage, mais pas forcément quantitatif, mais un peu des essences d'arbres qu'il y a dans la forêt, des différences d'âge. Donc des gens qui vont être capables, par rapport au sol, à l'endroit, de voir à peu près, et à la taille des arbres, de voir à peu près les âges qu'il y a. Est-ce qu'il y a des très vieux arbres qu'il faudrait conserver? Et du coup, moi, je ferais ça sur, je sais pas, 1, 2 ou 3 ans, aller se balader régulièrement en forêt avec un petit groupe et regarder le type d'intervention possible. Parce que vous voulez couper du bois dans cette forêt? Voilà, ouais. Et ben, il y a le réseau des alternatives forestières, quoi. Faut écrire parce que là, il y a à travers ce réseau-là, on fait tout un tas de chantiers à différents endroits en France. Et puis c'est possible même de faire venir une scie mobile sur place pour directement pouvoir scier du bois. Débarder avec des sans machines, enfin avec des chevaux, c'est de trouver des contacts qui peuvent aider à ça. Je pense que c'est du côté du réseau des alternatives forestières, quoi.
Deux mots par rapport à ce que vous avez dit. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est que concernant les forêts ou la terre en général, mais les forêts. Dans notre imaginaire à nous, les forêts, il n'y a personne dedans. Il y a des animaux éventuellement. Mais comment dire, les forêts sont habitées aussi par rapport à des gens qui en retirent, entre guillemets, des ressources. Et quand nous disons habiter la terre, ce n'est pas habiter un musée qu'on conserverait à l'abri de... Non, au contraire, la terre, elle existe dans l'interaction aussi avec les humains et les non-humains. Bon, bref, donc... Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, sur la tolérance, juste un point. Je crois que concernant ce qui se passe au niveau des forêts ou la terre, c'est autre chose que de la tolérance aussi. Cette part sauvage qui existe sans nous, que nous n'avons pas fabriquée, que nous sommes même parfois incapables de reproduire, et que nous sommes la plupart du temps incapables de reproduire. Des milieux de vie ne peuvent pas se reproduire comme ça, même si on nous dit que la raison technique va nous permettre de reproduire tout ça. C'est plus que de la tolérance, c'est du laisser-être sans nous. C'est-à-dire, c'est une rupture avec l'utilitarisme qui consiste à considérer que tout a été fait pour nous, pour notre service. Donc, c'est aussi laisser-être. Et c'est pour laisser-être, je crois que c'est vrai que c'est la mobilisation d'une raison sensible. Mais cette raison, je suis absolument convaincue, il va y avoir une table ronde tout à l'heure sur les mouvements climat, sur le climat. Aujourd'hui, les millions de tonnes de carbone, les millions de ci, les millions de là, c'est-à-dire cette raison arithmétique, calculatrice, etc., ne suffit absolument pas, même pour nous mettre en mouvement. Nous avons besoin d'éprouver et d'éprouver par nos sens, corporellement, le dérèglement du monde pour peut-être être davantage capable de nous soulever par rapport à ce qui nous arrive. Donc, sur cette raison sensible, c'est l'opposition aussi entre le rationnel et le raisonnable. Hein, il n'est pas raisonnable d'être rationnel au sens économique et technicien du terme aujourd'hui. Donc, c'est complètement d'accord avec vous là-dessus. Et sur le être forêt, c'est laisser être la forêt aussi.
Moi, je voulais ajouter quelque chose à ce qu'est, sur, en lien avec ça et à ce qu'a dit Geneviève sur être forêt, sur la critique de cette volonté un peu trop fusionnelle d'être cet autre qui est la forêt, de perte d'altérité, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre Les Furtifs de Damasio, qui, à mon avis, est un pendant dans la fiction du livre de Vidalou, au sens où il y a la volonté d'une connexion très forte avec aux puissances des puissances de vie dans un but révolutionnaire, hein, d'aller pêcher quelque part dans le vivant une puissance pour sortir du capitalisme. Et finalement, c'est le projet de Damasio aussi qu'on retrouve là. Je suis d'accord avec les critiques que tu as faites, mais en même temps, ce que je trouve intéressant, et Damasio le formule comme ça, c'est qu'il dit aller se ressourcer dans ses puissances de vie, il propose de le faire dans son roman sans médiation technique. C'est pas en faisant du biomimétisme, c'est pas en faisant des biotechnologies, c'est pas en faisant etc. qu'on va prélever une puissance supérieure, c'est par un sursaut du sensible. Il faut augmenter notre puissance d'être affecté. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est est-ce qu'il est possible de répondre à l'enjeu du désastre planétaire dans lequel on est? Est-ce qu'il est possible de créer des rapports de force avec le productivisme et le capitalisme sans avoir ce sursaut du sensible, sans accroître notre capacité à être affecté, à prêter attention à des lieux, à des êtres extrêmement concrets? Et donc voilà, sans aller jusque au côté très métaphorique qu'il peut y avoir dans le slogan « être forêt », ça pose malgré tout cette question très, très forte, il me semble. Allez-y.
Oui, ben justement, dans ce registre-là, je reviens une minute avant sur cette question de l'écart, enfin de l'altérité nécessaire, indispensable, que je partage complètement aussi sur cette position-là. Là-dessus, il y a le livre de Nastassia Martin qui s'appelle « Croire aux fauves » qui propose une autre position. « Croire aux fauves », ce n'est pas tout à fait pareil qu'être forêt. Et dans « Croire aux fauves », il est aussi question chez les Évennes chez qui elle va habiter, travailler, etc., chez qui elle retourne. Il est aussi question de manière très claire de cette raison sensible qui existe chez certains peuples de manière absolument évidente. Donc ça, je trouve que c'est dans l'échelle des positionnements, on voit bien qu'effectivement, l'aspect de travail relationnel politique de Latour est pas loin, si on veut être un petit peu méchant, d'une espèce de social-démocratie étendue aux autres qu'humains. Et par les temps qui courent, pour revenir maintenant sur ton sentiment, que est-ce qu'on peut puiser à cette force dans le vivant, etc., et dans le sensible, face aux désastres qui arrivent, moi, aujourd'hui, je pense que la social-démocratie latourienne, etc., n'est pas du tout à la hauteur du désastre qui arrive. Mais pas du tout, quoi. Je pense qu'il faut vraiment trouver, effectivement, et personnellement, c'est effectivement dans une espèce d'inquiétude sensible qui a grandi, je dois dire, soudainement, en quelque sorte, à partir du moment où j'ai commencé à imaginer que la beauté de la nature était en train de se retirer globalement, partout, que potentiellement...
Moi, ce n'était pas exactement à ce sujet-là, mais c'était pour revenir sur le thème des luttes et de la forêt. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de tout le courant de la wilderness aujourd'hui qui se développe pour essayer de retrouver et de reconstruire un monde sauvage, finalement, dans des écosystèmes ayant pu être affectés. Voilà.
Oui, c'est pas... Véritable. Je pense que elle suffit à réclamer qu'on renverse la table.
Ouais, je regarde des documentaires à la télé, j'ai vu je crois que c'est Cash Investigation qui montrait que la nourriture, c'était sur les multinationales qui nous volent j'ai plus le terme exactement, mais qui nous le thème en fait, c'est que la nourriture, elle a plus de, il y a beaucoup moins de choses vitales dedans, quoi. C'est complètement mort. Il y a beaucoup moins de vitamines, beaucoup moins de oligo-éléments. Tout ça, c'est très réduit par rapport aux années 60. C'est la génétique qui a fait des plantes qui sont de moins en moins riches, quoi, de plus en plus pauvres. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre des compléments alimentaires, et puis on attrape plein de maladies à cause de cette disparition de plein d'éléments qui y avait avant dans la nourriture, quoi. Ça me fait penser à ce que disait monsieur sur la beauté de la nature qui disparaît, c'est un peu la même idée, quoi.
Ouais, ça marche. Je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris la question, mais tu parlais de la wilderness. Du coup, c'est qu'est-ce qu'on en pensait je sais pas. En France, enfin, à partir d'un cas concret, en France, il y a une association qui s'appelle l'ASPAS. Je sais pas si tu connais, l'association de protection des animaux sauvages, qui sont justement en train de. Ça fait déjà un moment, mais et avec d'autres associations aussi qui ont déjà fait ça avant, mais eux, j'ai l'impression qu'ils arrivent à faire beaucoup plus. Ils sont là, en plus, ils sont là, magnifique. Et du coup, il y a le projet, notamment en ce moment, là, de rachat de 500 hectares. Ils l'ont bouclé ? Non, je pense. Oui, ça y est, c'est fini ? Donc, non, pas dans la Drôme, dans le Vercors. La Drôme est déjà existante. Je pense que c'est pas encore tout à fait bouclé, le crowdfunding, je sais pas quoi. Là. Et du coup, c'est le principe, en fait, c'est de sortir des forêts du marché. Et des usages délétères, et notamment de la chasse, telle qu'elle existe là-bas, notamment. Et le laisser-être, du coup, ça se traduit en écologie par une libre évolution. Et du coup, c'est retirer tout ce qui peut empêcher la reprise des dynamiques évolutives et écologiques, comme les grillages que les chasseurs ont mis en place, etc. Et du coup, c'est restituer aux vivants le temps long. Et eux, ils se situent dans une perspective à 600, 800, 1000 ans, le temps de refaire de la forêt primaire. Et c'est ce que je voulais dire. Et que du coup, il y a un argumentaire intéressant qui est sorti sur Internet de Baptiste Morisot, qui cherche justement à défendre cette initiative-là, des critiques justement de mise sous cloche qu'on a pu justement adresser à l'idée de wilderness américaine. Oui, ouais. Et effectivement, ils font face à un certain nombre de critiques émanant de paysans, agriculteurs, chasseurs, etc., que vous privatisez la nature et tout. Et j'invite à lire ce texte. Il y a deux versions. Il y a une tribune dans Le Monde et une version longue. La version longue est beaucoup plus consistante, plus intéressante. Et pour moi, oui, en fait, ce qui est en jeu, c'est pas tant importer l'idéologie de la wilderness américaine comme telle, quoi, comme si on allait protéger une nature sans histoire. Au contraire, là, c'est partir des déterminations d'un certain milieu et l'accompagner vers autre chose, quoi. Mais cette autre chose, c'est vraiment une altérité qu'on souhaite. C'est-à-dire que c'est nous retirer le plus possible, même si c'est pas faisable d'arrêter d'impacter nos milieux. C'est se retirer le plus possible et ne plus être la principale force de détermination des dynamiques évolutives. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, ce que le dit Morisot, c'est que ça peut agir comme des foyers de dispersion de la vie vers ailleurs, en fait, d'avoir des lieux comme ça protégés avec le moins possible d'intervention humaine. C'est-à-dire que à partir du moment où une forêt est laissée en libre évolution, non seulement elle est réhabité par des loups et des grands prédateurs, etc., qui autrement ne pourraient pas y venir. Mais il y a eu aussi une dynamique d'extériorisation, d'aller vers l'extérieur, c'est-à-dire les oiseaux qui ont pu retrouver un habitat stable, etc., une dynamique stable, peuvent repartir ailleurs, les insectes pareil, et ça essaime comme ça. Et du coup, c'est pas une mise sous cloche, c'est-à-dire c'est un foyer, c'est-à-dire ça irradie, ça diffuse, quoi. Et du coup, moi, je trouve ça... Même si la stratégie qui est derrière du rachat est à questionner, néanmoins, ça constitue aujourd'hui des alternatives.
17e édition du Festival du livre et de la presse d'écologie, Felipe 2019.